En attendant de retrouver vos habitudes à la rentrée, on vous propose de découvrir cette nouvelle émission dont vous pouvez retrouver tous les épisodes sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Mère Marie-Ange te déteste. Il y a de quoi jurer ne jamais porter de gris lorsque l'on sera grande. Il y a de quoi s'évanouir en classe parce que l'on a voulu s'évanouir. Il y a de quoi ne pas suivre attentivement la récitation d'une fable de La Fontaine. Il y a de quoi apprécier que l'on ne vous dénonce pas et que même l'on vous protège. Une nouvelle d'Anne Wiazemski, première diffusion sur France Culture le 15 juillet 1988.
There is a haze in your wings that cool the rising sun. It's been the ruin of many poor girls and me, your golden moon.
Rencontre avec Fanou de Anne Wiazemski, lu par l'auteur et
Lucienne Amon,
Corinne Taroni,
Marcel Tassilou,
Claude de Rep.
Mère Geneviève s'installa sur sa chaise et d'une voix mélodieuse annonça le début du cours de français. Les 35 petites filles qui composaient sa classe ouvrirent en silence leur livre de récitation.
Livre fermé,
ordonna Mère Geneviève, donnant un bref coup de règle sur le rebord de son bureau. Elle mit ses lunettes et ouvrit un grand cahier à couverture cartonnée. Anna, la voyant hésiter, prit peur. Interrogée l'avant-veille, elle avait depuis négligé de réviser sa récitation. Elle se rappela qu'elle avait obtenu un 12, note passable mais honnête, et se rassura. Il y avait peu de chances pour que Mère Geneviève la questionnât de nouveau. Ce n'était pas le cas de sa voisine de droite, Marion, qui lui jetait des regards désespérés. Anna n'aimait ni ses grosses joues, ni ses lourdes tresses blondes, et se détourna aussitôt vers sa voisine de gauche, Stéphane Marie. Celle-ci l'intéressait davantage. Elle était brune et menue. Ses silences, sa façon de se tenir à l'écart lors des récréations, intriguaient Anna. Le doigt de Mère Geneviève descendait le long de la colonne des noms.
« Mademoiselle de Borges. »
L'élève appelée se leva. « Le chat, la belette et le petit lapin, » annonça-t-elle. Mère Geneviève approuva du menton et l'élève commença. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette un beau matin s'empara, c'est une rusée. Anna s'estima sauvée et généreuse, sourit à ses deux voisines. Mais l'une fixait une tache d'encre incrustée dans le pupitre et l'autre, tout à ses appréhensions, suçait sa gomme. Anna alors regarda ses autres compagnes qui écoutaient avec attention la fable de La Fontaine, hypnotisée par le ton monocorde de la récitante. Elles étaient vêtues, comme Anna, d'un tablier bleu, droit, plissé sous la poitrine. En dessous, toutes portaient l'uniforme gris qui faisait le prestige de l'institution et qu'Anna haïssait. Elle avait essayé de protester, d'apitoyer ses parents. Mais ils étaient restés très fermes. Porter un uniforme, même gris, n'avait rien de dramatique pour une petite fille de 10 ans. Je jure de ne jamais mettre du gris quand je serai grande. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer, se dit-elle en fixant la statue de la Vierge qui se trouvait dans une niche au-dessus de la porte d'entrée. Apaisée par son serment, elle se tourna vers la fenêtre. Mais ce qu'elle vit l'accabla de nouveau. Le ciel était gris, aussi gris que son uniforme. La voix de Mère Geneviève la ramena aux mornes réalités de la salle de classe.
« Bien, mademoiselle de Borges. » « Veuillez continuer, mademoiselle Rivière. »
L'élève félicité se rassit. Stéphane Marie se leva.
« Je m'aperçois que je vous ai déjà interrogée il y a 2 jours, mademoiselle, et que je vous ai mis un 2. »
Elle tourna lentement les pages de son grand cahier.
« La semaine dernière, vous avez obtenu un 5, un 2 encore, et par je ne sais quel hasard, un 10. C'est tout à fait insuffisant. »
Stéphane Marie, toujours debout, écoutait ses reproches, les yeux baissés, le corps raidi.
« C'est tellement insuffisant, mademoiselle Rivière. que j'hésite à vous interroger de nouveau. Je crains d'avoir encore à vous mettre une mauvaise note. Vraiment, j'hésite.
Stéphane Marie avait relevé la tête et regardé droit devant elle, au travers de la porte vitrée. Elle paraissait résignée au pire.
Rasseyez-vous, mademoiselle Rivière. Et continuez, mademoiselle Deroux.
Stéphane Marie se glissa sur son banc sans manifester le moindre signe de soulagement. L'autre élève reprit la fable avec une emphase très théâtrale. « Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. » Quelques rires à peine étouffés saluèrent la récitante. Consciente d'avoir un public, celle-ci grossissait sa voix, marquait des pauses, accompagnait chaque phrase de vigoureux hochements de tête. Ses camarades, comme Mère Geneviève, l'écoutaient, séduites. Ce n'était pas le cas d'Anna. « Grotesque !» murmura-t-elle entre ses dents. Un coup de règle claqua sur le bureau.
« Vous avez parlé, mademoiselle Torrent ?»
Anna tressaillit, plus de surprise que de frayeur.
« Et qu'avez-vous dit, mademoiselle Torrent ?»«
Je ne sais plus. »«
Vous ne savez plus. »« Mais vous avez parlé, l'admettez-vous ?»«
Oui, je l'admets. »«
Oui, je l'admets, ma mère !»
corrigea la religieuse. Il y eut un court silence. Toutes les petites filles épiaient maintenant Anna avec un mélange de plaisir et d'effroi. Elle savait d'instinct que quelque chose de désagréable tombait sur l'une d'entre elles et en secret s'en réjouissait. Un second coup de règle, plus violent que le précédent, les fit toutes sursauter.
« Puisque mademoiselle Torrent ne se souvient plus, je vais demander à mademoiselle Rivière de nous rapporter ce qu'elle a dit. » « Alors, mademoiselle Rivière ?»
Stéphane Marie se tassa sur son banc. Une expression à la fois résolue et effrayée se lisait sur son visage.
« Pardon, ma mère. » Il ne m'a pas semblé qu'Anna ait parlé.
« Elle ne me dénonce pas. Elle me protège », pensa Anna, bouleversée. C'était si merveilleux qu'elle ne put contenir un sourire de contentement, sourire que surprit Mère Geneviève.
« Puisque vous persistez l'une et l'autre dans le mensonge, je porterai l'affaire jusqu'à notre mère supérieure. » Reprenez donc la récitation, mademoiselle Rivière.
Stéphane Marie ouvrit la bouche, écarquilla les yeux, mais ne dit rien.
« Levez-vous. »
Stéphane Marie obéit.
Je ne me souviens plus.
Mais vous vous souviendrez du zéro que je viens de vous mettre. Vos parents apprécieront. Asseyez-vous.
Stéphane Marie regagna sa place. Elle était devenue blanche. Ses lèvres s'étaient mises à trembler. Elle se couvrit le visage de ses deux mains.
Mademoiselle Torrent va poursuivre.
Anna se leva avec une lenteur exagérée. Près d'elle, Stéphane Marie pleurait, affaissée sur son pupitre. Des larmes passaient entre ses doigts et faisaient sur le haut de son tablier des petits ronds foncés. Cette vision décida Anna. Elle ne devait pas, elle aussi, s'exposer à pareille humiliation. Elle reprit la fable au hasard, avec l'espoir que son ange gardien saurait l'inspirer. C'était un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatte mite, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras. Une vague de rire l'interrompit. Toutes ses camarades s'étaient retournées vers elle. Anna fit comme si de rien n'était et reprit. Arbitre expert sur tous les cas, Jean Lapin pour juge l'agré, les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Les rires redoublèrent. Mère Geneviève tapa dans ses mains.
Non, mademoiselle Torrent, non. Vous avez sauté 7 lignes. Vous ne vous souvenez pas de ces 7 lignes. Vous allez avoir un zéro, mademoiselle Torrent.
L'injustice de cette sanction réveilla une colère jusqu'à la contenue. Si je me souviens mal, protesta Anna, c'est que c'est trop compliqué, cette histoire de terre qui est au premier occupant. À Pierre, à Paul, à je ne sais plus qui. Mais que veulent la belette, Jeannot Lapin ?
Mademoiselle Torrent, taisez-vous, vous avez zéro.
Ou alors c'est l'inverse. La terre est à Jeannot Lapin et c'est Pierre ou Paul qui veulent la lui chipper. Moi, je ne sais pas à qui elle appartient pour de vrai, cette terre. Et d'ailleurs, je m'en fiche. Rouge, le souffle court, Anna se laissa tomber sur son banc.
Je ne vous ai pas autorisé à vous asseoir.
Anna se releva.
Non seulement vous avez un zéro, mais vous passerez la récréation punie dans le cabinet de Mère Marie-Ange. Le problème de « à qui appartient la terre » est un problème grave, avec lequel on ne plaisante pas. Malheureusement, certains Français, votre famille entre autres, ont des opinions erronées en ce qui concerne la terre d'Algérie.
« Ma famille ?» répéta Anna.
« J'ai bien dit votre famille, mademoiselle Torrent. Votre père. »
Mère Geneviève s'interrompit quelques secondes, accablée. Anna ne comprenait pas pourquoi sa famille était ainsi citée à propos d'une fable de La Fontaine. Une fatigue soudaine l'envahit. Ses mains d'abord, puis son corps tout entier se mirent à trembler. Mère Geneviève à nouveau l'interpella.
« Car à qui appartient la terre d'Algérie, mademoiselle Torrent ?»«
Si je ne respire pas, si je ne bouge pas, si je fixe la pointe de mes chaussures, je vais m'évanouir, » pensa Anna. Autour d'elle, des bras un peu partout se levaient. Ses compagnes se pressaient pour donner la bonne réponse. Une voix aiguë cria « À la France, ma mère ! À la France !» Anna alors sentit que ses jambes ne la soutenaient plus. Elle ferma les yeux et mollement s'affaissa sur sa voisine, Marion. Elle crut qu'elle allait vomir et gémit. Marion, terrifiée, se plaignait. « Je t'en prie, réveille-toi. » Anna ouvrit les yeux soulagée. Elle n'avait pas vomi et savait maintenant qu'elle ne vomirait pas. Elle entraperçut Mère Geneviève, qui quittait précipitamment son bureau et qui venait vers elle dans un grand bruissement de robe.
« Que vous arrive-t-il, ma fille ? Vous transpirez, mais vous n'avez pas de fièvre. Donnez-moi votre poignet. La tension est normale. Vous avez pris un petit déjeuner ce matin ?»
La cloche qui annonçait la fin des cours résonna, provoquant un radical changement d'intérêt. Les petites filles se bousculèrent vers la sortie et Mère Geneviève elle-même parut pressée. Elle pinça les joues d'Anna qui ne put retenir un cri de douleur.
« Ne soyez pas douillette. C'est pour redonner un peu de couleur à ce visage qui en a bien besoin. »
Elle l'aida à se mettre debout et de sa voix redevenue mélodieuse ajouta.
« Allez en récréation. L'air vif vous fera du bien. Vous avez eu un malaise, mademoiselle Torrent. Un simple et banal petit malaise. »
Encore un peu tremblante, encore un peu effrayée, Anna se hâta de quitter la salle de classe. Sur le palier, appuyée au mur, Stéphane-Marie l'attendait en triturant une mèche de cheveux.
« Tu t'es évanouie pour de vrai ?»«
Non, je me suis évanouie parce que j'ai voulu m'évanouir. » Anna et Stéphane-Marie faisaient lentement le tour de la cour de récréation. Deux grands marronniers achevaient de perdre leurs feuilles, et Anna pensa aux marronniers de sa grand-mère. Elle eut envie de les décrire à Stéphane-Marie, mais elle n'osa pas. Alors elle revint à ce qui avait eu lieu dans la salle de classe. « Je me suis sentie très mal, j'ai souhaité m'évanouir, et ça a marché. »«
Vénarde !»
Pour la première fois, peut-être, Stéphane-Marie souriait.
« Moi qui ai tant de mauvaises notes, si je pouvais m'évanouir à chaque interrogation, je serais sauvée. Tu m'apprendras ?»«
Je ne sais pas si je saurais recommencer. » Elles firent quelques pas en direction du potager privé que cultivaient les religieuses. Une barrière en bois les en séparait. De l'autre côté, quelques dahlias tardifs voisinaient avec les premiers chrysanthèmes. « J'aimerais y aller, » dit Anna. « Il paraît qu'au printemps, on y trouve des fraises. »«
Mais c'est interdit !»
Anna fila brave, comme elle avait coutume de le faire avec son petit frère Jean-Baptiste. « On ira. »«
Mais comment ?»«
On dira qu'il nous faut des fleurs pour la Sainte Vierge de la chapelle. » Stéphane-Marie alors rit carrément. Elle riait très fort, par saccade, comme quelqu'un qui ne rit pas souvent. C'était si communicatif qu'Anna rit à son tour. Mais une religieuse surgit de derrière un plant de poireaux et elle dut rebrousser chemin. Revenue à la hauteur du bâtiment central, Stéphane-Marie, soudain grave, demanda.
« Qu'est-ce qu'elle a fait de spécial, ta famille ?»«
Elle ne fait rien de spécial. »«
Mère Geneviève semble dire que... »
Anna hésitait. Pour des raisons qui lui échappaient, elle se sentait mal aimée des religieuses. Elle eut peur que sa nouvelle amie, à son tour, cessât de l'aimer et tenta une réponse. « Papa fait de la politique. Il connaît le général de Gaulle. Tu sais qui c'est ?»«
Bien sûr. Moi, je suis de la famille de Jacques Rivière. Tu sais qui c'est ?»«
Non. »«
C'est un écrivain connu. » Ami d'un écrivain encore plus connu, qui s'appelle Alain Fournier, et qui a écrit un livre très célèbre, Le Grand Mône.
Anna jouait avec un marron et regardait le ciel qui lui parut soudain moins gris.
C'est assommant d'avoir quelqu'un de célèbre dans la famille. Parce qu'on vous en parle toujours quand on a fait 50 fautes en dictée ou quand on a raté une division.
Une sonnerie prolongée lui coupa la parole. C'était la fin de la récréation. Les élèves devaient se mettre en rang, deux par deux, devant les portes de leurs salles de classe respectives. Les religieuses présentes tapaient dans leurs mains et leur criaient de se dépêcher.
« Allons-y, on va encore se faire attraper. »
Anna la retint par un pan de son tablier. « Tu m'as sauvée tout à l'heure, en ne me dénonçant pas. Merci, Stéphane-Marie. »«
Fanou. » »«
Pardon ?»«
Appelle-moi Fanou, c'est comme ça qu'on m'appelle chez moi. »
When first I came to Louisville,
my fortune there to find. I met a fair maiden there, her beauty filled my mind.
Presque trois semaines s'étaient écoulées. Anna et Fanou se retrouvaient quotidiennement au couvent. Un jeudi, elles étaient allées, chaperonnées par Mademoiselle Barbara, voir 20 milieux sous les mers au bon cinéma d'Auteuil. Jean-Baptiste les y avait accompagnées, un peu jaloux, un peu intimidé. C'était la première fois que sa sœur lui présentait une amie. Puis étaient venues les petites vacances de la Toussaint, et Anna était partie pour la campagne, chez sa grand-mère. Elle avait avec enthousiasme parlé de Fanou, et Mamie avait évoqué la possibilité de l'inviter à Noël. C'est ce qu'Anna radieuse rapportait à Fanou, tandis qu'elle revêtait leur manteau gris et s'apprêtait à quitter la salle de classe. « Tu verras comme c'est bien. On ramasse du bois, du houx, de la mousse, et on fait la crèche avec oncle Henri. Après, on va à la messe de minuit à Plailly, et puis on réveillonne. » Dehors, près du portail, se pressaient d'un côté les élèves qui allaient sortir, et de l'autre leur mère qui les attendait. Entre les deux groupes, droite et grande comme une statue d'église, se tenait Mère Marie-Ange. Anna ne pouvait passer devant elle sans un serment de cœur. La religieuse, un jour, l'avait prise à partie devant tout le monde pour une histoire de cartable mal fermée. Depuis, elle la redoutait, comme la redoutait d'ailleurs l'ensemble des pensionnaires, des plus petites aux plus grandes.
Mademoiselle Torrent, Mademoiselle Torrent, approchez-vous, je vous prie.
Anna obéit et avança, la tête baissée, les épaules voûtées. Fanou la suivit, effrayée elle aussi.
Mademoiselle Torrent, vous avez oublié de mettre vos gants. Et vous savez que le port des gants est obligatoire au couvent ?
« Je m'excuse, » dit Anna dans un murmure.
« On ne dit pas « je m'excuse », mais je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas vous qui vous excusez vous-même, c'est moi qui, à la rigueur, pourrais vous excuser. Mais justement, Mademoiselle Torrent, je ne vous excuse pas. »
Anna dissimula ses mains dans les poches de son manteau. Elle les savait sales, couverts de taches d'encre, et craignait que Mère Marie-Ange n'exigeât de les voir de plus près. Cela serait d'autant plus pénible que ses camarades et leur mère la dévisageaient maintenant avec curiosité. Seule Mère Marie-Ange parlait, en prenant les dames à témoin.
« Ne trouvez-vous pas que c'est laid, une petite fille qui sort sans ses gants ? Ne trouvez-vous pas que cela fait mauvais genre ? Quand on s'appelle Torrent, quand on est la fille de Serge Torrent, on se doit d'être particulièrement docile et convenable. »«
J'ignorais que vos murs abritaient la fille de Serge Torrent, » dit une femme blonde enveloppée de fourrure. Mère Marie-Ange joignit ses deux mains en un geste conciliant.
« Vous comprenez, le couvent a élevé successivement la grand-mère d'Anna et sa mère. En notre âme et conscience, nous ne pouvions pas refuser cette petite fille. »
Un silence poli suivit ces dernières paroles. Mère Marie-Ange prit Anna par le bras et la guida amicale jusqu'au portail. La rue Greuse faisait un angle. Anna et Fanou attendaient de le dépasser pour échanger leurs impressions, car la religieuse dans leur dos les surveillait encore. Elles avançaient donc à pas compter, en se tenant très droites. « Ouf !» dit Anna en abordant la deuxième partie de la rue Greuse.
« Je les déteste toutes. »«
Bah !»«
Tu raconteras à tes parents, tu devrais... »
Anna haussa les épaules. « Papa est à Genève et maman l'a rejoint pour quelques jours. C'est Tante Betty qui nous garde. »«
Tante Betty ? C'est elle qui me demande toujours si ma famille a connu Alain Fournier ?»«
Oui. »«
Ma mère à moi n'est pas là non plus. » Je peux venir goûter chez toi si tu veux.
Dans le métro, elles s'assirent côte à côte sur la banquette, leur cartable entre les genoux. Autour d'elle, six garçons d'environ 15 ans poursuivaient une conversation animée. Ils se comportaient comme s'ils étaient les seuls occupants de la rame, avec une insolence impressionnante. Anna supposa qu'ils venaient du lycée Janson de Sailly et s'intéressa à eux. Elle savait que son père et ses oncles y avaient fait leurs études et que Jean-Baptiste, quand il serait plus grand, y ferait les siennes. L'un d'entre eux attirait particulièrement son attention. Il avait des cheveux blonds et bouclés, des traits fins et énergiques. Il ressemblait à Alix l'Intrépide, l'un de ses héros favoris. Il désignait un journal à ses camarades. C'est clair pour tout le monde qu'ils sont du côté des assassins, disait-il d'une voix calme. Ses amis approuvèrent. Des traîtres, de la vermine, oui. Le journal passa de main en main et revint à celui qu'Anna surnommait Alix. Il le brandit à bout de bras et éleva la voix de façon à être entendu des autres voyageurs. « La grande Zora ne veut pas interdire ce torchon. Nous le ferons interdire. » Un vieil homme, debout près d'Anna, les toisait avec mépris. « Petit con, » murmura-t-il. C'était si surprenant qu'Anna pensa avoir mal entendu. Elle regarda à nouveau le vieil homme, mais rien chez lui ne confirmait les deux mots qu'elle avait cru comprendre. Il se tenait un peu voûté. Sa moustache blanche était finement taillée et ses vêtements d'une grande élégance. Anna en conclut que la grossièreté était impossible chez quelqu'un d'aussi comme il faut. Elle revint alors aux deux adolescents qui lui faisaient face et à contre-temps pouffa. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» dit l'un d'eux. « La photo du général en première page ?» Il lui posa le journal sur les genoux. Anna lut d'abord l'Express, puis cette phrase qui s'étalait en grosses lettres rouges. « Qui paye l'OAS ?»
Le bruit de tous les jours s'élevait jusqu'à la chambre, monotone et familier. Une sirène de pompiers soudain déchira l'air. Anna imagina la voiture rouge qui montait la rue Ribera et qui tournait à toute vitesse avenue Mozart. Il y eut encore d'autres sirènes, et de nouvelles voitures passèrent, faisant trembler les vitres à chacun de leur passage. Elles viennent de la caserne du bas, près de la rue La Fontaine. Il doit y avoir un incendie, expliqua Anna.
Le père d'Anna, depuis de longues minutes, se taisait. Il était enfoncé dans son fauteuil en chemise, la cravate dénouée. Sur son bureau, une lourde lampe chinoise l'éclairait de face, et Anna, assise de l'autre côté de la table, pouvait suivre chacune de ses expressions. Il lui sembla qu'il avait maigri, et que son sourire, quand il souriait, était empreint de tristesse. Devant lui, le bulletin scolaire était ouvert à la page des commentaires de fin de trimestre. Il les avait lus distraitement, comme si, à l'avance, il en connaissait le contenu.
Anna sursauta. Son père, maintenant, croisait et décroisait les jambes, tandis qu'une de ses mains s'ouvrait et se refermait sur le bras du fauteuil. Elle espéra qu'enfin il allait prononcer quelques mots. Non pas des mots d'encouragement ou de consolation, ses mauvaises notes ne le justifiaient pas, mais des mots qui sauraient briser cette insupportable attente. Curieusement, elle n'avait pas peur, et si elle frissonnait, c'était de froid. Car malgré le radiateur allumé et les bûches qui brûlaient dans la cheminée, elle ne parvenait pas à se réchauffer. Cela durait depuis l'après-midi, depuis l'heure qu'elle avait passée debout dans la cour de récréation.
« Tu m'assures que Mère Marie-Ange t'a mise au piquet cet après-midi en plein mois de décembre. »
Anna acquiesça et à regret précisa. « J'étais en manteau. » Elle l'entendit marmonner et crut comprendre.
« C'est inadmissible. »
Mais comme de nouveau il ne disait rien, elle n'osa pas le faire répéter. Pourtant, elle aurait bien aimé savoir si c'était ses résultats scolaires qui étaient inadmissibles ou si c'était la punition que lui avait infligée Mère Marie-Ange. Des paroles de Fanou lui revinrent en mémoire.
« Mère Marie-Ange te déteste. »
« Mère Marie-Ange me déteste, » dit Anna.
« Je le pense aussi. »
Cette réponse déconcerta Anna. Son père avait parlé tranquillement, avec juste une pointe d'agacement. Elle essaya de croiser son regard, mais il était occupé à allumer sa pipe. Alors elle fixa pour se distraire une photo du général de Gaulle dans un cadre de cuir noir. Quelque chose d'illisible était écrit au bas de la photo, quelque chose dont elle se désintéressa.
« Mère Marie-Ange déteste le général, voilà l'explication. »
Anna sourit presque rassurée. Apparemment, son père ne lui tenait pas rigueur de ses mauvaises notes et des nombreuses heures passées en retenue le jeudi après-midi. Elle avait craint un instant qu'il ne veuille la punir et que cette punition concerne Fanou. Car Fanou, c'était presque admis, devait l'accompagner quelques jours à la campagne. Les vacances de Noël approchaient et cela seul comptait. La porte s'ouvrit. Sa mère entra suivie de Betty. Elles avaient toutes les deux des mines si graves qu'Anna pensa aussitôt qu'un attentat meurtrier avait eu lieu. Elle savait, pour avoir écouté les conversations de ses parents, qu'il y en avait beaucoup actuellement à Paris. Un putsch, dit-elle à tout hasard. Les deux femmes esquissèrent un sourire. Son père lui lança un coup d'œil irrité, le premier depuis qu'elle se trouvait avec lui dans la pièce.
Ce n'est pas le moment de plaisanter.
Ne sois pas dure avec cet enfant.
Sa mère se pencha sur elle et l'embrassa sur le front.
Tu aurais dû me raconter, si je m'étais doutée.
Anna se laissa faire, un peu surprise. Elle ne comprenait pas à quoi on faisait allusion, mais elle était confiante. D'ici peu, l'explication lui serait donnée, il lui suffisait de patienter. Betty s'était servi un verre de whisky et portait un toast.
À la santé de ces vieilles biques qu'elles crèvent toutes. Betty,
protesta la mère d'Anna.
Oui, Betty, modère tes propos. Tout de même.
Betty avala une gorgée de whisky et vint s'installer sur la petite balancelle recouverte de velours bleu, près de la cheminée. Elle désigna les flammes à Anna et lui dit sur le ton de la confidence.
Elles retireront tout en enfer.
Qui ça ? Demanda Anna sur le même ton. Betty mit un doigt sur sa bouche et lui désigna son père qui s'était levé et qui se versait à son tour un verre de whisky.
Anna, tu n'iras plus au couvent.
Ma petite fille est contente,
ajouta sa mère. Anna se répéta mentalement les mots qu'elle venait d'entendre, persuadée qu'ils avaient un sens autre que leur sens habituel. Elle avait mal à la tête, mal à la gorge, et pensait qu'elle couvait quelque chose, comme n'aurait pas manqué de le diagnostiquer mamie. Cela expliquerait son incapacité à s'intéresser au récit que Betty maintenant faisait à ses parents.
« Je vous l'ai déjà raconté. J'ai surpris l'autre jour, à la sortie du couvent, mère Marie-Ange qui faisait une scène à Anna, devant tout le monde, pour une histoire de manteau boutonné de travers. Or, c'était de tout autre chose qu'il était question. Elle lui reprochait d'être ta fille, Serge. »
Anna avait l'impression de rêver. Chaque phrase lui arrivait séparée de son contexte. Déformé. Il lui semblait que Betty parlait trop fort et trop rapidement.
Je voudrais.
Personne ne faisait attention à elle. Elle se tut, découragée. L'envie lui vint de regagner au plus vite son lit et le silence de sa chambre. Elle toussa pour leur rappeler sa présence.
Je ne me sens pas bien.
On le serait à moins. Passez 3 mois dans le repère de l'OA.
Deux mains se posèrent sur ses épaules. Son père se tenait devant elle et la fixait sans sourire.
La France est plus que jamais divisée.
Encore la politique.
Quelques mots qu'elle avait l'habitude d'entendre résonnèrent à ses oreilles. Extrême droite, général de Gaulle, guerre d'Algérie. C'était si ennuyeux qu'elle sentait ses yeux se fermer.
Tu m'écoutes ? Je suis en train de t'expliquer que nous avons commis une erreur en te mettant au couvent et que tu n'y retourneras plus. En janvier, après les vacances de Noël, nous t'inscrirons dans une autre école et tout ira très bien.
Les mots retrouvaient tout leur sens, et Anna enfin comprenait. Elle entrevit un monde horrible, un monde où Fanou, pour toujours, serait exclu. Elle poussa un cri et tenta de s'accrocher aux jambes de son père.
« Fanou !»
dit-elle, avant de glisser doucement sur le tapis.
One foot on the platform, and the other is on the track. I'm going down in human limbs to wear that golden chain.
Rencontre avec Fanou de Anne Wiazemski, lue par l'auteur et
Lucienne Amon.
Corinne Taroni,
Marcel Tassini,
Claude Doré.
Groupe de réalisation Marie-Dominique Bougot, Patrick Nuéry, Dany Journeau, Jacques Taroni.
Rencontre avec Fanou est extrait du livre Des filles bien élevées aux éditions Gallimard.
Thank you.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 juillet 1988.